Maurice Renard, Les enquêtes du commissaire Jérôme, chez le voyant. Quand j'étais jeune inspecteur, me dit Jérôme, mon chef un jour me fit appeler. C'était Alexis Leroux. Il ne lui déplaisait pas de discourir, de s'étendre, quand il en avait le temps, sur les missions qu'il nous confiait. Et vous allez voir de quelle façon. « Connaissez-vous le professeur Melibius ?» me demanda-t-il. « C'est-à-dire, chef, je lis comme tout le monde les annonces qu'il fait paraître dans les journaux. Un voyant, il prédit l'avenir et il perce la pensée. Mais vous soufflez avec scepticisme et non sans suffisance, jeune homme. » Mais vous avez tort. Je ne vous ai pas fait venir pour vous entendre décrier une profession qui pourtant n'est pas à la portée du premier quidam et que je tiens pour hautement honorable. Lorsqu'elle est naturellement exercée, et c'est souvent le cas, par d'honnêtes gens, mais le professeur Melius. Est-il un honnête homme? Cela, c'est une autre affaire. Auriez-vous quelques doutes d'en douter? Non, pas du tout, chef. Bien, moi, j'en ai. Ah bien, chef. Vous me diriez qu'on l'arrêterait demain, j'en serais pas du tout ébahi. Savez-vous que c'est un personnage étrange, inquiétant, d'aucuns disent redoutable? Je ne pense pas que vous fassiez allusion à son art ou, si vous préférez, à sa science, dis-je en me reprenant à sourire. Pourquoi non ? Fit Leroux, qui s'accouda solidement à son bureau et se mit à me regarder en haussant les sourcils. Je me rendis compte qu'il me serait décidément bien difficile de comprendre ce jour-là, le fond de sa pensée, n'étant pas moi-même de ces privilégiés qui lisent à travers les fronts. Eh bien, j'ai besoin de savoir, mon petit Jérôme, comment on est reçu chez lui. Vous saisissez pourquoi? Non. Voyons, si demain, j'ai à m'assurer de sa personne. Ah, compris, chef. Vous attendez de moi que je vous indique les précautions à prendre en raison de l'état des lieux. Ah, sagace, mon ami, vous êtes un petit sagace. Oh, mais ne partez pas encore, un moment. Gardez-vous de vous présenter chez Melilius comme un client. En vérité, Leroux préférait-il que le professeur n'eut pas à s'occuper de pénétrer les secrets de mon âme. Je m'en voulais croire, mais pour d'autres raisons, il me semblait, oui, habile et en effet de prêter à la visite un but tout à fait quelconque. Il vaut mieux qu'on vous prenne pour un agent de sa compagnie d'assurance, poursuivit Leroux. Son auto a été bousculé par un camion il y a quelques jours. Aucune corrélation entre cet incident et nos affaires. Tenez, voilà le rapport du gardien de la paix et quelques renseignements sur la police d'assurance. Étudiez ce petit dossier, faites vite et bonne chance. Une heure plus tard, comme le soir tombait, je sonnai à la porte du professeur Melibius, qui occupait un bel appartement au premier étage d'un immeuble neuf. Une vieille femme m'ouvrit, très correcte. Je débitais sans sourciller le petit boniment que j'avais préparée, collision, assurance, etc. Elle me précéda tout au long d'une vaste antichambre et m'introduisit à droite dans un tout petit salon, au bout. Je procédais à un examen méticuleux de toutes choses. J'avais compté les issues de l'antichambre, noté ses dimensions. Le salon face à moi avait deux fenêtres donnant sur le boulevard et autant de portes. L'une par où je venais d'arriver, l'autre à droite, entre le coin le plus reculé et la cheminée, qui se trouvait au milieu du mur. À gauche, c'était la muraille du fond de l'immeuble, et de ce côté-là, bien entendu, ni porte ni fenêtre, mais des tableaux de grande valeur, et au-dessus d'une console dorée, un magnifique portrait de femme. La vieille dame qui m'avait introduit se retira après avoir allumé la moitié d'un lustre à pendeloques et en me priant d'attendre 5 minutes. Je restai donc seul dans cette pièce qui ne différait pas des salons classiques où les médecins pourvus d'une riche clientèle font attendre leurs malades. C'était cossu, sérieux, avec de jolies choses disparates, arrangées communément, mais rien de bizarrerie que je m'attendais à trouver là. Les volets n'étaient pas clos. On apercevait, dans le bleu assombri du soir, l'agitation de l'extérieur. Pas de balcon. En résumé, ce salon constituait une sorte de cul-de-sac dont on ne pouvait s'échapper que par deux portes et beaucoup plus difficilement par deux fenêtres. Quand mon inspection fut terminée, je feuilletais des revues illustrées éparses sur une table de boules. Mais je m'aperçus que je regardais sans les voir les gravures de ces magazines. Une gêne que j'éprouvais vaguement se précisa. Il faut que vous sachiez combien je suis sensible à certaines influences qui restent sans effet sur la plupart de mes semblables. Soit dit en passant, ces facultés, enfin, ces dons, si vous voulez, n'ont pas été pour rien dans ma vocation de détective. Il y a des hommes qui s'orientent presque aussi sûrement que des pigeons voyageurs, et d'autres sentent que les regards, et je suis de ceci et de cela. Eh bien, je fus certain tout à coup que derrière moi, quelqu'un m'épiait. Je réfrénais, non sans peine, l'impulsion qui me poussait à exécuter un brusque détour. Mais j'étais assis en face de la cheminée, sur laquelle miroitait une grande glace. Et avant de me retourner, je pris soin de regarder l'image qu'elle reflétait. Je ne vis derrière mon dos rien de suspect. Je me vis ne regardant que la femme peinte. Mais le miroir et son emplacement ne pouvaient me montrer la partie basse de mes arrières. Alors je me levai sans affectation, d'un air distrait, et je me mis à chercher et à marcher de-ci de-là avec indifférence. En arrière de la chaise que je venais de quitter, Il n'y avait personne, ni rien qui pût servir à dissimuler quelqu'un. Mais il y avait le portrait. Il y avait la femme dont le regard me fixait avec une intensité si vivante que j'en fus malgré moi étrangement troublé. Tout à l'heure, je n'avais pas remarqué ce regard impérieux, volontaire, inquisiteur. Mais mon trouble persistait désagréablement. C'était une grande femme rousse, peinte à l'huile, sur un fond sombre et chaud. La clarté d'une lampe éclairait uniquement son visage, plat, pâle, et ses yeux verts où l'artiste avait su rendre admirablement la flamme d'une attention entendue et d'une vigilance impitoyable. Je vous l'avoue, je commençais à faire de curieuses réflexions sur cette toile extraordinaire, sur cette figure dont le regard m'avait fait retourner, et sur le professeur Mobilius lui-même, lorsque celui-ci entra dans le salon. Un homme mûr, pareil à ses photographies, front dégagé, visage énergique, des yeux vifs et perçants sous la noire broussaille. Il répondit complaisamment aux questions que je lui posais de la part, soi-disant, de son assureur. Je lus devant moi qu'un homme d'affaires, simplement dépouillé du professeur. Je jouais bien mon rôle et pris congé dans les délais convenables, ayant en quelque sorte empli ma mission. La femme du tableau suivit ma sortie de son regard inlassable. Le lendemain, Mabilius fut appréhendé au corps. On l'arrêta au seuil de la maison voisine. Il s'enfuyait par là, sous un déguisement, et le roux, sur mes indications, avait fait garder cette issue. L'aventure de la veille m'avait appris qu'un Judas bien dissimulé était pratiqué dans le mur de la séparation, et ce Judas permettait au professeur d'observer ses clients avant de les recevoir. Mais, très femme psychologue, prévoyant que certains d'entre eux se sentiraient épiés, il avait, pour les abuser, employé le subterfuge de la femme aux yeux verts. Malheureusement pour lui, la magie me laissait incrédule. Et, passé la première surprise, un peu de raisonnement à froid m'avait fait tout comprendre.